La série sur le livre des Romains numéro 138. L'attitude de Christ nous. 5. Les effets d'une attitude négative. Le 14 septembre 2003. Pasteur Brian Kozurek. Avant de commencer notre message ce matin sur l'attitude de Christ, j'aimerais dire que j'ai énormément aimé cette étude. Sur plusieurs années passées, j'ai vu notre capacité d'examiner la parole vivante de Dieu et la voir devenir plus claire que jamais auparavant. La Bible nous dit de diviser droitement la parole de vérité, ce que je vois Esther un aiguisement de plus en plus. Les choses deviennent plus claires que jamais auparavant. Dès que l'incrédule soulève une question, la parole qui vit et qui demeure dans notre cœur a la réponse à leur incrédulité. Dans Hébreux 4, nous lisons que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et nous avons reçu les jumelles de la parole, qui sont capables de voir microscopiquement des choses dans cette parole que les autres partout dans les âges passés ont jamais rêvé de voir. L'homme qui n'est pas né de nouveau réside dans les cinq sens externes du corps, et avec ses cinq sens de la vue, le goûter, le toucher, l'odorat et l'ouïe, ils ont été capables de se rapprocher plus près de l'invisible, jusqu'à même de disséquer des atomes. L'apôtre Paul a dit, Éphésiens 5:13, mais tout ce qui est condamné, convaincu ou prouvé, est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est à lumière. Donc nous pouvons voir que les grandes avancées de cet homme dans les sciences Néhémie sont devenues possibles que par sa capacité d'utiliser les lumières. Et maintenant le mystère arrivé à un endroit où ils peuvent voir de leurs yeux à travers les microscopes électroniques, ce qui est appelé l'espace intérieur, et comme ils ont perfectionné leur usage de la lumière avec ces microscopes, ils sont capables de voir de plus en plus clair jusqu'à ce qu'ils aient découvert qu'il y a un plus de grand univers lointain dans l'atome, qu'il y a dans ce que nous avons appelé l'univers extérieur ici, où nous voyons le soleil, la lune, les étoiles et les planètes. Un plus grand univers lointain se trouve dans ce qui a été invisible pendant les âges, et Esther maintenant rendu visible par la lumière. Les hommes à travers la science, à travers la compréhension de la manière d'utiliser les principes naturels de la lumière, sont capables de voir plus clairement ces choses qui ont été cachées d'âge en âge. Et à travers la lumière, ils utilisent ce qu'ils ont reçu dans les sciences naturelles pour regarder le monde invisible avec ces instruments qui deviennent plus puissants au fur et à mesure que les années passent. Et de penser qu'ils regardent juste avec l'œil naturel. Ils le font avec seulement les cinq sens extérieurs. Alors, qu'en est-il de nous qui avons reçu une telle illumination, qui va au-delà de ces sens extérieurs, quand l'accès nous a été donné par la lumière de sa glorieuse présence et avons reçu l'habilité de connaître et de comprendre les cinq sens intérieurs, de l'imagination, de la conscience, de la mémoire, de la raison, et de l'affection. Les sens de l'esprit. Et alors ce sens intérieur appelé la foi. Car, par la foi nous pouvons voir dans le monde invisible. Et point et simplement qu'avec les cinq sens extérieurs qui ont été donnés à l'homme pour entrer en avec sa demeure terrestre, l'homme a été capable de s'approcher plus près du monde invisible en disséquant des atomes. Et maintenant il est arrivé à un endroit qui est appelé l'espace intérieur, et il a découvert qu'il y a un plus grand univers lointain dans l'atome, qu'il y a dans l'univers entier, que nous pouvons voir à travers les télescopes. Alors, qu'en est-il de nous? Nous qui nous tenons dans la présence même du Créateur de l'univers lui-même. Il est la lumière suprême des lumières. Quel genre de vue devrions-nous avoir au fur et à mesure que nous grandissons dans la sagesse et la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ? Alors comment devons-nous voir les choses de Dieu qu'il nous est de plus en plus tant apportées à travers un prophète confirmé, et par sa propre présence personnelle avec nous sous la forme de la colonne de lumière. Les choses deviennent de plus en plus claires au fur et à mesure que nous nous approchons davantage de la source de cette lumière, qui est la présence glorieuse de Jésus-Christ. Combien devrions-nous être capables de voir des choses qu'aucun homme n'a jamais vues auparavant? Car l'Écriture nous dit, Jean 1, 4, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'y l'ont point reçue. Et nous savons que lorsque cette lumière frappe les lieux obscurs, elle apporte l'illumination à ces lieux-là. Et l'apôtre Pierre nous a dit que lorsque cette lumière frappe, elle éclairerait les lieux obscurs et les mystères cachés seraient révélés. De Pierre 1h19. Et nous tenons pour d'autant plus certaines les paroles prophétiques, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et pourtant le monde continue dans l'obscurité concernant le Créateur qui leur a donné la lumière naturelle, parce qu'ils ont rejeté la lumière de son glorieux évangile. En effet, l'apôtre Paul a dit, 2 Corinthiens 4, 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, 4 pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il n'y visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Et donc aussi, la lumière du glorieux évangile se manifeste dans nos cœurs apportant la lumière sur la parole de Dieu qui se repose dans nos cœurs, révélant les secrets profonds de Dieu qui ont été cachés depuis les fondations du monde, mais qui nous ont été révélés en cette heure par la présence de cette grande lumière, la colonne de feu qui est ici au milieu de nous. Avoir foi en Dieu 00.09-54-13 qu'est-ce ce qui n'est mis va pas avec nous les chrétiens? Nous avons renoncé à notre travail. C'est-ce vrai? La science a pris l'homme avec ses cinq sens plus loin que les prédicateurs l'ont pris avec son âme, son esprit qui sont plus supérieurs que sa science. J'aimerais juste vous poser une question. Beaucoup d'entre vous les frères ici peuvent revenir avec moi à la vieille époque du modèle T, la science pouvait seulement. Maintenant écoutez, juste avant de terminer. Voici une remarque dont je voudrais que vous vous souveniez. La science n'est mise s'améliore qu'au fur et à mesure qu'elle se répond à ses propres attentes. La science se rapproche de plus en plus de ses propres attentes. C'est-à-dire comme ça qu'ils deviennent puissants. Et plus l'Église peut rapprocher de ses propres attentes, plus elle devient puissante. 14. La science. Il y a environ 35 ans, Néhémie pouvait viser que d'atteindre le 10 000e d'un pouce. En cela, il pouvait fabriquer une Ford modèle T, avec un 10 000e d'un pouce de piston, qui pouvait lui donner la vitesse magnifique d'environ 40 km à l'heure. En plus de ça, mettez une bougie, une valve pour pomper l'essence brûlée par la bougie, mais ça a perdu beaucoup de sa compression au fur et à mesure que ça sortait avec un 10 000e d'un pouce. Vous n'aimez pouviez la conduire qu'à cela. Une Ford modèle T rapide de 46-46 km à l'heure était une Ford extrêmement bonne. Bien. Esther, ce qu'il se sent arrêté à cela? Non, monsieur. Ils peuvent maintenant aller à un 100 000e d'un pouce. Ils réduisent dans leurs règles, et mesurent de plus près. Maintenant, ils peuvent mettre cette même Ford, ou ce même piston dans un avion à réaction et presque le conduire à 960 km à l'heure, avec la même bougie qui brûle à son sommet. Pourquoi ça? Ils peuvent mesurer de plus près qu'il n'y a aucune fuite. La pression est là, mais votre mesure n'était pas assez proche. Ils peuvent même prendre ce 100 000e de pouce et fondre un atome avec ça. Est-ce ce qu'ils arrêtent? Non. Ils vont continuer. Sauf nous. Oh. Eh bien, Nous sommes satisfaits avec ce que Moody a dit, ce que Finney a dit. 15. La première fois que la règle a jamais été faite sur la posée à travers la parole de Dieu. Comment la mesurez-vous ce soir? Quelle valeur a la parole de Dieu pour vous? Maintenant regardez, amis chrétiens, Martin Luther Esther sortit et l'a posé à travers le catholicisme et il a découvert que le juste vivra par la foi. Il a laissé un grand intervalle là. Beaucoup de choses sont passées à travers. Mais il croyait que le juste vivra par la foi, et Esther sortit sur ça. Parce que la parole de Dieu l'a dit. Il a mesuré la parole de Dieu aux gens, le juste vivra par la foi. Ensuite est venu un petit homme d'Angleterre, du nom de John Wesley. Il a mesuré aux gens un peu plus proche. Il a coupé la règle un peu plus proche. Il a pu mesurer plus proche, la sanctification, comme ils l'ont appelé en leur jour, la deuxième œuvre de la grâce. Regardez ce qu'il a fait. Il a présenté la sainteté à l'Église. 16. Ensuite est venue la Pentecôte et a-elle mesuré les dons du Saint-Esprit, le parler en langue et les signes. Mais ne laissons passer juste le grand intervalle au travers. Posons la règle de Dieu ce soir et mesurons la parole entière de Dieu. Le même Saint-Esprit qui a brûlé le piston là dans le passé, qui les a fait sortir par la foi, la justification, ce même Saint-Esprit a donné la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, cette même puissance. Le même Saint-Esprit peut amener l'Église jusqu'à la perfection, et il le fera, pour tout ce que Dieu a promis dans sa parole. Dieu le fera. Le problème en Esther que, laissons-les s'en sortir le monde. Prenons la mesure de la parole de Dieu, et s'Esther la vérité. Avoir foi en Dieu. Jésus a dit. Car si vous dites à cette montagne, quitte-toi de là et que vous n'ayez mis le doutiez point, vous le verrez s'accomplir. N'est-ce pas merveilleux? Posons la règle. Je n'ai mis m'inquiète de rien. Les luthériens sont de bonnes personnes. Les baptistes sont de bonnes personnes. Les méthodistes sont de bonnes personnes. Les pentecôtistes sont de bonnes personnes. Toutes ces différentes choses sont très bien. Mais posons-la bien et disons que chaque parole de Dieu est vraie. Tout ce que Dieu a dit est parfait. Et s'il a dit, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous le recevrez. Je crois que c'est la vérité. Ô Dieu, laisse-moi poser mon bâton de la mesure sur mon âme et l'étendre à travers la parole de Dieu pour dire, ô Dieu, c'est la vérité. Envoie l'onction du Saint-Esprit et brûle le cylindre au-dessus de moi. Je croirai chaque mot d'elle. Et vous verrez des choses se produire. Le croyez-vous? 1 Jean 2, à mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous n'ayez mis péché point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 2 Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 3 Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. 4 Celui qui dit, je l'ai connu, et qui n'a mis garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 5 Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. 6 Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 7 Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. 8 Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. 9 Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui est son frère, est tard encore dans les ténèbres. 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est tard en lui. 11. Mais celui qui a son frère est tard dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il n'est mis où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Maintenant ce matin, nous allons conclure notre étude sur l'attitude de Christ. Ce sera le numéro 5 dans cette série. J'aimerais focaliser notre attention ce matin sur le cinquième point concernant l'attitude de Christ. Lequel est-ce? Comment une mauvaise attitude peut paralyser notre marche et la marche de ceux qui sont autour de nous? Ainsi, depuis là, au fur et à mesure que nous avons examiné l'attitude de Christ, nous avons vu qu'une attitude n'est pas une conception mentale, ni quelque chose qui n'émis réside que dans la pensée. Le mot attitude n'émis fait pas référence à la pensée, mais plutôt l'expression extérieure de vos pensées à travers les corps, les sentiments, et les émotions qui sont affichées en utilisant le langage du corps en quelque sorte. Souvenez-vous de l'étude de frère Branham sur les trois parties du corps, que nous sommes des êtres tripartites. Nous avons un corps qui a cinq sens, la vue, le goûter, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Avec ces sens nous contactons notre demeure terrestre. L'amnésie spirituelle 11.04-64p, 29. Donc nous découvrons que quand cette amnésie spirituelle gagne les gens, alors ils sont dans une mauvaise condition. Or, nous trouvons maintenant que c'est pareil. Alors, je voudrais. Vous devez être identifié. Quelque part vous devez montrer. Votre vie montre. Ce soir, où vous êtes identifié. Vous êtes identifié soit en Christ, soit hors de Christ. Vous n'êtes pas à moitié. Un homme sobre et ivre à la fois, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'oiseau blanc et noir à la fois. Soit vous êtes sauvé, soit vous n'êtes pas sauvé. Soit vous êtes un saint, soit vous êtes un pécheur, l'un ou l'autre. Et votre attitude spirituelle envers la parole de Dieu vous identifie exactement où vous vous trouvez. Maintenant, ce que j'aimerais vous faire savoir ce matin est que notre attitude n'est qu'un reflet de la condition de notre âme. Et les actions que nous faisons, n'émis sont qu'un reflet de cette condition-là. En effet, frère Branham a dit, dans le message, expliquant la guérison et Jérus 16.02-54, E 37, ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes ailleurs. Ce qu'il a appelé, il les justifie. Esther ce vrai, ce qu'il a justifié. Il les a glorifiés. Déjà dans la présence du Père, nous avons un corps glorifié. Oh, là, là. N'est-ce ce pas profond? Très bien. Nous verrons si c'est Esther vrai ou pas. Si ce tabernacle terrestre est détruit. Nous en avons déjà un autre qui nous attend. Est-ce vrai? C'est vrai. Très bien maintenant. Et ce que nous sommes là-bas? Est-ce un reflet? Ici? Ce que nous sommes ici? Est-ce un reflet de ce que nous sommes ailleurs? Donc si vos actions sont mauvaises, vous savez d'où elles viennent. Vous savez où votre autre corps vous attend. Maintenant, nous pouvons de nouveau regarder les hommes dans la Bible pour voir la manière dont leur attitude a affecté ceux qui étaient autour d'eux. Si nous regardons au premier Exode, nous trouvons qu'il y avait des hommes dans le camp d'Israël qui avaient une influence négative sur les autres dans ce camp, par leurs actions et les choses qu'ils racontaient. Regardez comment Dathan et Coréon continuent à amener des choses négatives tout le temps, jusqu'à ce que cela a eu une influence sur ceux qui étaient autour d'eux. Et que cela a-t-il produit? Ils ont tous péri. Oui, Leur propre attitude a affecté ceux qui étaient autour d'eux jusqu'à ce qu'ils aient tous péri dans le désert. L'influence 12.01-63 Phoenix souligné à ce paragraphe 13. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, et la plupart de nous tous, influençons quelqu'un par les choses que nous faisons, et la façon que nous vivons, et les choses que nous disons. Nous influençons quelqu'un. Quelqu'un regarde votre vie. Et puis, quand nous professons être des chrétiens, quel type de vie devrions-nous mener si quelqu'un nous regarde? Et votre vie que vous menez reflétera une influence sur quelqu'un qui, peut-être leur destination éternelle se reposera sur la façon que vous vivez et les choses que vous faites, car ils vous regardent. Et dans notre texte ce matin, comme influence, nous trouvons que ce roi Ozia était une grande influence pour Osaïe, le jeune prophète. Osaïe avait été appelé à son côté, et étant un distingué, un prophète confirmé de son jour, et il avait un, je crois la façon que Osaïe a parlé, il était un avait une grande influence sur Osaïe. 14 Maintenant, nous trouvons qu'Ozia a été appelé pour être roi à l'âge de 16 ans environ après la mort de son père. Et son père était un grand croyant, et sa mère était aussi une très bonne femme. Et ce jeune roi avait été couronné à un jeune âge, et rapidement il prit la route qui était bonne, à cause de l'influence d'un père pieux et d'une mère pieuse. Et je pense que c'est un très bon exemple, car nous parents aujourd'hui, nous devons mettre un exemple devant nos enfants. Maintenant, vous vivrez le meilleur et le pire à la maison. Et je pense que nos vies, bien que les enfants d'Émis puissent pas non seulement agir exactement comme ils l'observent, mais l'observent. Néhémie pensait jamais qu'il n'observe pas, parce qu'il regarde. Non seulement que les enfants regardent, mais les voisins regardent. Non seulement que les voisins regardent, mais tous ceux avec qui vous êtes associés vous regardent. Les gens à votre église vous regardent. Les gens avec qui vous travaillez dans les marchés, ils vous regardent, après votre confession. Et nous devrions toujours essayer de refléter Christ dans tout ce que nous faisons. 15 Je connais une petite devise que j'avais suspendue dans ma maison il y a beaucoup d'années. Je l'avais prise un jour lorsqu'au tabernacle de Billy Sunday j'étais à une des réunions au lac Winona. Et je l'ai tant aimée jusqu'à ce que je l'ai obtenue et l'ai accrochée dans ma maison. Et je l'ai gardée jusqu'à ce que ça s'est abîmé. C'était quelque chose comme ceci. N'allez à aucun endroit, vous Néhémie voudriez pas y être trouvé si Jésus venait, et Néhémie dites rien que vous Néhémie voudriez pas dire si Jésus venait. Et ça a continué avec beaucoup de choses disant ce que vous, autrement, quoi que vous faites ou dites, ou quelle que soit l'action que vous accomplissez, Néhémie le fait pas si vous Néhémie voudriez pas être trouvé à cet endroit quand Jésus viendra. Si nous pouvons seulement faire cela, je suis sûr que nous serions une grande influence sur nos associés. 16 Et vous savez, le vrai. Il y a deux moyens de faire quelque chose, c'est le vrai et le faux. J'avais mon petit garçon Joseph sur mes genoux l'autre jour, et je lui ai dit. Il a 8 ans, et un petit garçon a marché sur la pointe des pieds. Et lui et le petit garçon avaient un combat. Alors, j'ai dit, Joseph, Néhémie fait pas cela. Il a dit, mais, papa, il a fait telle et telle chose. Je lui ai dit, mais ce n'est pas un problème, ce qu'il a fait. Voyez, souviens-toi, Joseph que, tu aimes ton père? Il a dit, oui, papa. J'ai dit, alors souviens-toi. Que les gens vont regarder ta vie comme étant le fils d'un prédicateur. Et alors si tu fais quoi que ce soit de mal à qui, alors ils vont dire, est-ce ce que c'est ce prédicateur qui autorise à son enfant d'agir ainsi? Maintenant, nous savons qu'ils le font de toute façon, et nous savons cela. Mais en tant que chrétiens, nous savons que nous essayons de bien élever nos enfants. Mais c'est-ce une bonne chose de laisser cela devant eux tout le temps et de faire ce qui est bien? Néhémie fait pas Néhémie prenez pas cet autre côté. Alors j'ai dit, parce que, tu vois, cela Néhémie porte pas atteinte seulement à toi, Joseph, mais ça porte atteinte à ta mère, à tes sœurs, à ton père, et la cause même de la famille, ce que nous soutenons. Et puis, ce que nous soutenons, ça porte atteinte à cela, à Jésus-Christ. Tu n'as pas certainement l'intention de le faire. J'ai dit, notre Seigneur nous a dit que si quelqu'un nous frappe sur une joue, présentez-lui aussi l'autre joue. Et évidemment, c'est en quelque sorte dur pour un petit garçon avec un tempérament chaud de commencer à penser à de telles choses. Mais placez ça devant lui, de toute façon, voyez, qu'il Néhémie devrait pas le faire. 17 maintenant. Ce jeune homme de Zia a une telle formation dans ses premiers jours jusqu'à lorsqu'il ait pris le trône. Il Néhémie s'est jamais détourné ni à droite ni à gauche de la chose correcte. Il est bien resté avec ça. Il n'a jamais laissé des politiques l'influencer en aucune façon. Il était un homme indifféremment déterminé à servir Dieu. Et donc les politiques Néhémie l'ont pas fait. Il a ignoré toutes ces choses. Et une autre chose que j'ai aimé d'Ozia, était qu'il a ignoré la popularité ou les opinions populaires. Peu importe ce que quelqu'un d'autre pensait, ou ce que la tendance populaire du jour était, il voulait indifféremment servir Dieu. Oh! Nous avons besoin de ce genre d'hommes dans notre monde politique. Nous avons besoin de ces genres d'hommes à la Maison Blanche. Nous avons besoin de ce genre d'homme dans les affaires. Nous avons besoin de ce genre d'homme à la chair. Les hommes qui n'aiment se détourneront pas à cause des opinions populaires ou de la popularité, mais qui resteront avec la parole. Et qui n'aiment se détourneront ni à droite ni à gauche. 18 Dieu en commissionnant Josué a dit que ce livre de la loi n'aiment s'éloigne au point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et non seulement ça, mais tu influenceras quelqu'un de la même façon que tu voyageras. Et donc j'apprécie cette position qu'Ozia avait prise. Être déterminé. La première chose qu'il a commencé à faire était de réparer la maison du Seigneur, et de développer les endroits qui avaient été détruits. Et ensuite, il estera allé vers l'ennemi après qu'il eut prouvé à Dieu qu'il était sincère. Et il alla prendre la bonne position, sans se soucier de ceux que son peuple autour de lui, ses conseillers, pour l'influencer du côté politique du royaume. Il n'aimait le supporterait pas. Il voulait la volonté de Dieu et cela seul. 19 Sester le genre d'homme dont nous avons besoin, le genre de mère dont nous avons besoin, une femme, une mère de ce jour qui prendra la bonne position, et fera ce qui est correct sans se soucier de ce que les autres femmes font, qui fera ce qui est correct. La semaine dernière, nous avons montré à partir des Écritures la manière que l'attitude de Lot qui vivait à la porte était telle que ses propres gendres pensaient qu'il était en train de plaisanter lorsqu'il les a avertis de sortir de Sodome, et lorsqu'il l'a fait, il pensait qu'il plaisantait. La Bible a dit qu'il pensait de lui comme s'il était en train de plaisanter. Et cela nous dit que son respect et sa révérence n'étaient pas ce que vous pouvez inspirer une qualité admirable. J'ai vu des parents qui n'ont jamais voulu même aller à l'église, parce qu'ils semblaient n'avoir rien de bon à dire au sujet de quelqu'un. Ces mêmes personnes essaieront de se justifier pour Néhémie pas aller à l'église en disant, « Pourquoi devrais-je aller à l'église ?» Alors qu'il y a tant d'hypocrites qui vont là-bas? Eh bien, qui est-ce alors hypocrite de toute façon? Celui qui est le moindre, qui essaie de venir et écouter Dieu ou bien celui qui pense qu'il a raison et n'a pas besoin d'aller écouter Dieu? Et si vous regardez assez longtemps cette famille, vous verrez leurs enfants sombrer dans les insanités et l'immoralité. Et leur attitude a affecté ses enfants au point que ses enfants aient appris à détester toute l'autorité, et ils n'ont même pas assez de grâce sociale pour accorder du respect à quelqu'un. Pire encore pour Dieu. Ils s'isolent des autres et leurs enfants sont perdus à cause de leurs actions. Les gendres de Lot ont été perdus à cause de l'attitude de Lot. Hébreux chapitre 7. Première partie, E15.09.957 Jeffersonville, in, USA. 161 Votre attitude à l'égard de Christ fera une grande impression sur ce que seront vos enfants. Votre vie que vous vivez devant votre famille fera impression sur ce que seront vos enfants. Parce que la Bible a dit qu'il punira l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. 162 Maintenant, juste quelques instants, avant de terminer, si donc la perfection, voilà, à nouveau cette fameuse perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Maintenant, nous avons examiné dimanche dernier l'attitude de beaucoup de gens dans la Bible. Nous avons vu ceux qui ont exprimé une attitude positive à l'égard de la parole de Dieu, et puis nous avons aussi vu ceux qui ont exprimé une attitude négative à l'égard de la parole de Dieu. Mais cette semaine, je voudrais montrer comment notre attitude envers la parole de Dieu a un effet sur les autres. Et plus spécifiquement, je voudrais montrer comment une mauvaise attitude peut réellement paralyser les autres dans leur marche avec Dieu. Comme vous le savez, Frère Branham a dit que nous sommes des petits messiettes. Nous sommes de petits créateurs et nous créons autour de nous une atmosphère qui soit attire les gens à être autour de nous, soit elle repousse les autres de Néhémie pas vouloir être avec nous. C'est votre attitude qui crée cette atmosphère. Et votre attitude n'est-elle pas ce que vous pensez, ou ce que vous dites, mais c'est-elle la façon que vous vous portez et la façon à laquelle votre corps envoie des signaux aux autres. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que vous êtes le bienvenu ou vous n'êtes pas le bienvenu. Leur attitude peut être entendue plus fort que leurs mots. Comme la vieille expression qui dit, une image vaut mille mots. Pourquoi 09.03-60 paragraphe 10 Votre vie, aujourd'hui, se reflétera dans vos enfants. Vous devez vous souvenir de cela. Votre attitude identifie qui vous êtes, et ce que vous soutenez, et elle dit aussi aux autres ce que vous pensez, bien que vous n'ayez puissiez pas le leur dire avec les mots. Regardez l'exemple que nous avons lu dans les Écritures la semaine dernière, du pharisien qui a invité Jésus pour manger et pourtant, il n'avait pas la politesse de lever ses pieds, qui étaient épuisés du voyage, ni oint Jésus sa tête d'huile, et alors que la prostituée n'avait pas seulement oint Jésus d'huile, mais elle a aussi lavé ses pieds avec ses larmes et les a essuyés à sec avec ses cheveux. Et Jésus a utilisé cette scène pour faire savoir à Simon le pharisien que ses gestes ont été entendus plus fort dans le ciel que ses paroles. L'agneau et la colombe 25.03-57-13 Maintenant, peu importe combien beaucoup vous prêchez, vous avez un vrai mal acquis, colère. Prêcher beaucoup Néhémie vous fait pas du bien. Voyez? Peu importe combien avez autant des fois adhéré à l'église et vous essayez d'imiter, si vous critiquez votre voisin et que vous êtes mauvais avec lui, vous n'aimez le gagnerez jamais à Christ alors. Voyez? C'est le fruit de l'esprit. Comme ma femme me disait, les actions parlent plus fort que les paroles. C'est vrai. Vivez-moi un sermon au lieu de m'en prêcher un. C'est une bonne chose. Vivez-moi un sermon. Le fidèle Abraham 15.04-59 page 21 Je crois que, C'était Abraham Lincoln qui avait dit une fois, « Vous pouvez duper quelques personnes une fois, mais pas tout le monde tout le temps. Et vos émotions prouvent, et vos actions prouvent ce que vous êtes et ce que vous croyez. » 22 Dans la Bible, Jacques a justifié Abraham par ce qu'il a fait. Paul a justifié par la foi. Mais Paul parlait de ce que Dieu a vu. Et Jacques parlait de ce que l'homme a vu. Mais la façon que vous agissez prouve ce que vous croyez. Si vous dites que vous croyez Dieu, alors vous agissez en conséquence. Mettez-vous en mouvement. Levez-vous et agissez. S'Esther dure, n'Esther-se pas, mais s'Esther la vérité. Vos actions prouvent ce que vous êtes. Comme ma femme dit souvent, les actions parlent plus fort que les paroles. Vous pourriez monter et descendre et crier toute la nuit, et ensuite vous plaindre au sujet d'une des promesses de Dieu. Ça prouve ce que vous croyez. Et qu'en est-il du deuxième Exode? Regardez les faits que six pharisiens, qui se sont appelés des frères, a eu sur un leader comme Pierre. Paul les a appelés des faux frères et regardez comment Pierre a agi quand ils sont apparus. Il avait mangé avec une des églises de Paul et il avait été libre et se réjouissait dans la communion et quand six frères légalistes sont apparus, Pierre s'est senti gêné et s'est tenu à l'écart. Galates 2, 4 et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier les libertés que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. 5 Nous n'émis leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. 6 Ceux qui sont les plus considérés tels qu'ils aient été jadis. Cela n'émis m'importe pas, Dieu n'émis fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés n'émis m'imposèrent rien. 7 Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, moins eut car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, moins 9 ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens, et vers les circoncis. 10 Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. 11 Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. 12 En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. 13 Avec lui les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. 14 Voyant qu'il n'y marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es un juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Le signal rouge de S-Avenue 23.06-1963. Soir paragraphe 149. Si vous leur dites quelque chose, vous savez ce qu'elles vous répondront? C'est Esther tout comme si elles vous disaient ceci. Je n'ai émis laisserai pas une vieille Bible me barrer le chemin et m'empêcher de m'amuser un peu. Exactement. Elles n'ai émis vous le diront peut-être pas en ces termes, mais s'astèrent bien ce qu'elles veulent dire. Vous aurez beau leur dire que cela est écrit dans la Bible. Connaissez-vous ce vieux proverbe qui dit, nos actions parlent plus fort que nos paroles? N'est-ce pas vrai? Les actions parlent plus fort que les mots. Quoi que vous disiez, votre vie parlera tellement plus fort que l'ennemi ne pourra pas entendre le témoignage de votre bouche. Comme je l'ai dit ce matin, n'aimez vous glorifiez pas plus haut que votre manière de vivre. Vous comprenez? Vos actions parlent plus haut que vos paroles. Parlez simplement comme vous êtes parce que quoi que vous disiez, vos actions diront, elles, ce que vous êtes. Si vous parlez autrement que ce que vous êtes réellement, cela devient de l'hypocrisie. Jésus a dit, hypocrite que vous êtes. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchant comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? Ils disaient quelque chose qui n'est mis, venait pas de leur cœur. Et qu'en est-il du troisième exode? C'est celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les Écritures nous avertissent que ce sera des temps périlleux. Elles nous avertissent aussi que ces hommes impies s'introduiront pour amener les autres dans la honte. 2 Timothée 3, 1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 6 Il en est parmi eux, qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, cet apprenant toujours et Néhémie pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse. De même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 Mais Néhémie feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. De Pierre 2, 1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a achetés, attireront sur eux une ruine soudaine. De plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Jude 4 Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. 5 Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, 6 Ce qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, celle que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. 8 Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. 9 Or, l'archange Michel, lorsqu'il contesta avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit, que le Seigneur te réprime. 10 Au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 11 Malheur à eux. Car ils ont suivi la voie de Cain. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. 12 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, 13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres reste réservée pour l'éternité. L'identification 23.01-63 Phoenix souligné à Z39 Vous voyez, le péché s'estère l'incrédulité. Il n'y a que deux canaux par lesquels vous pouvez vivre. Un d'eux s'estère la foi, et l'autre s'estère l'incrédulité. Celui né m'y croit pas estère déjà condamné. Fumer, boire, commettre l'adultère, mentir, voler, des imitations charnelles, ces choses sont des attributs de l'incrédulité. Si vous étiez un croyant, vous n'y feriez pas ces choses. Non. Vous faites cela parce que vous n'êtes pas un croyant. Oh, vous dites. Oh, mais je suis un croyant. Mais vous les connaîtrez par leurs fruits. Voyez, vos actions parlent plus fort que ce que votre confession prouve. Voyez, quand vous refusez de croire la parole de Dieu et la considérez comme quelque chose de passé, ou prendre un livre à sa place, et vous dire, c'est-ce aussi bon que cela, cela montre que vous n'êtes pas un croyant. C'est-ce vrai. Vous êtes vous n'aimez l'êtes pas. Et si vous l'étiez, alors vous croiriez la parole de Dieu et ça voudrait. Il s'exprime à travers ses paroles. Maintenant, il était la parole de Dieu exprimée. Et il a dit, maintenant, si vous n'aimez pas, pouvez pas me croire. Il a dit, croyez aux œuvres que je fais. Sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle. Et c'est-elle la chose même qui dit qui je suis. Oh, c'est-elle celle qui dit qui je suis. Les Écritures disent qui je suis. 40 et laissez-moi davantage un peu prendre cela. N'est-ce pas? Les Écritures sont celles qui disent ce que vous êtes. Cela vous exprime. Et ça m'exprime. Les Écritures disent ce que nous sommes. C'est-à-dire tellement fort que notre voix n'émit, peut même pas être entendue. Notre vie parle plus fort que notre voix, voyez? Et c'est-à-dire le moyen de Dieu de nous laisser voir ce que nous sommes. Jésus a dit les mêmes choses. Ce sont elles qui rendent témoigne de moi. Elles prouvent ce que je suis. Et qui de vous peut me condamner d'incrédulité? Le péché? Si je n'ai pas correctement. Écoutez, je parle de ce qui vous concerne. Si je n'ai mis, me suis pas identifié comme étant ce que la parole a dit que je serais. 41 Je me demande si nous les chrétiens, nous pourrions penser à cela ce soir. Je me demande si nous pouvons regarder dans le miroir de Dieu de ce que sont les exigences d'un chrétien et nous identifier de cette façon. Je me demande si nous le pouvons. Je me demande si nous pouvons nous identifier à Jean 3:16 ce soir, et, oh, tous les autres gens d'écriture, Marc le 16e chapitre, et tous ces autres endroits qui est sur dans Galates, je crois, et les différents endroits, le 2e dans Thessaloniciens là où il y a les fruits de l'esprit et tout. Je me demande si nous pouvons nous identifier. Jésus a dit, qui de vous peut m'accuser? Que je n'ai pas accompli et fait ce que les Écritures ont dit exactement que je ferais. Personne n'aimait pouvait dire un mot, parce qu'il s'était vraiment identifié. Et il, comme ils le font toujours, les soi-disant croyants l'avaient identifié comme étant un Belzébul, un esprit mauvais. Alors qu'il s'estère fait connaître dans le discernement de l'esprit, qu'il était le Messie. Alors ils ont dit, c'est un esprit mauvais en lui qui fait ces choses. Donc vous voyez, il était correctement confirmé. Il n'y pouvait y avoir aucune erreur. 42 La petite femme au puits n'a pas fait d'erreur. Elle a dit, Monsieur, nous savons que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Mais toi, qu'es-tu? Elle a dit. Il a dit, je le suis. Et un homme qui pouvait faire une chose comme cela, dirait sûrement la vérité. La vérité de Dieu était avec lui. Et ils ont été commissionnés. L'influence 30.11-63 Béchreve pour souligner la 53. Maintenant, nous découvrons, pourtant un homme de bien, béni de Dieu. Mais, si Dieu vous bénit, restez dans la catégorie dans laquelle Dieu vous a appelé. Si Esther une femme au foyer, restez une femme au foyer. Si Esther dans une affaire, restez dans cette affaire tout en reflétant Dieu. Et tout ce à quoi Dieu vous a appelé, soyez cela. Parce qu'il veut que vous soyez une vraie femme au foyer, pour refléter votre influence sur une autre personne qui voudrait être une bonne femme au foyer. Si vous êtes un bon homme d'affaires, que votre vie reflète ainsi Jésus-Christ dans votre affaire avec honnêteté et intégrité, et avec des choses qui vraiment veulent dire quelque chose. Parce que quelqu'un regarde votre vie, vous influencez quelqu'un. Dieu doit avoir une vraie femme au foyer. Dieu doit avoir un vrai adolescent à l'école. Dieu doit avoir un vrai prédicateur, un vrai homme d'affaires, quelqu'un qui le reflétera, lui. Parce que là il voit en vous, Christ. Peu importe ce que le reste du monde a commencé à faire, cela n'a rien à faire avec vous ou moi. Nous sommes responsables envers Dieu pour notre vie et pour notre expérience avec Christ. 54 Maintenant, nous découvrons que dans son épreuve de prendre la place du prédicateur, et que quelqu'un lui dise qu'il n'espère pas à sa place, lui disant qu'une Néhémie devrait pas faire cela, qu'il n'espère pas à sa place, il Esther devenu furieux. Il Esther devenu tellement en colère jusqu'à ce que son visage Esther devenu rouge. Vous voyez, nous devons être capables de support et d'accepter la correction. Quelques-uns Néhémie le feront pas. Vous Néhémie pouvez pas. Je vais aux réunions et je m'assois dans les auditoriums, et vous vous levez. Et certaines personnes entrent et s'asseyent juste pendant quelques minutes. Si vous dites un mot dont ils ne sont pas d'accord, frère Branham claque son doigt et raide. Ils partent, voyez? S'en vont. C'est Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2011. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.fr.